Rien n'est joué. Lydia Gabor.
On se penche et on voit un tout petit géranium à minuscules fleurs rouges. Bon, il est un petit peu maltraité, désherbé, mais il reste encore quelques fleurs. Ça, c'est un géranium qui a envahi la Suisse romande depuis les années 1982, où il n'était signalé que dans le nord du plateau et à l'est du plateau. Et depuis lors, on le trouve partout dans les gares. C'est le petit géranium pourpre. Donc, il a vraiment suivi les lignes de chemin de fer pour s'implanter dans toute la Suisse romande.
Bonjour et bienvenue à vous. Le géranium des gares pourrait bien intéresser notre invité, puisque chapeau au vent, regard ardent bleu néanmoins derrière ses lunettes rondes et surtout sourire aux lèvres, il traque partout et depuis longtemps les plantes sauvages, urbaines ou domestiquées. Bonjour François Couplan.
Bonjour Lydia.
Vous connaissiez ce géranium des gares?
Géranium des gares, oui, c'est un nouveau nom, oui. Oui, mais il y a pas mal de plantes comme ça qui viennent, qui vont, qui arrivent. Qui partent parfois. Ça bouge dans la nature.
Il y a quelque chose d'assez romantique d'imaginer dans ces gares qui sont un peu techniques et tout ça, qu'on trouve dans des interstices encore de quoi pousser.
Oh, mais il y en a tant et plus. J'ai un souvenir tout récent d'arriver à Paris, à la gare de Lyon, en TGV, et de suivre le flot des voyageurs qui quittaient le quai, et de voir à la place d'un TGV qui venait de partir, toute une colonie de différentes crucifères, une roquette sauvage avec des graminées à côté. Ah, j'étais scié, c'était bonjour, quoi.
Alors, vous êtes ethnobotaniste, qu'est-ce que ça veut dire? Botaniste, on comprend, ethno aussi.
Ethno, on comprend, on met aussi. Les deux ensemble.
Mais les deux ensemble, ça veut dire que vous étudiez les plantes partout, dans tous les pays, chez tous les peuples.
Oui, voilà, c'est ça. Disons que l'ethnobotanique, c'est l'étude des relations entre l'homme et les plantes à travers la culture, à travers les cultures, à travers le monde. Donc, on va dire l'étude des utilisations des plantes. Hein, tout ce que l'homme a pu faire et a pu vivre avec les plantes depuis qu'il est sur Terre, ça fait un bout de temps. Ça.
Alors là, j'ai autour de moi trois livres impressionnants, les uns plus que les autres. Ils sont arrivés dans l'ordre que je vais donner. Mm-hmm. Cuisine sauvage, accommoder 1000 plantes oubliées. Ça, c'est le premier qui m'a donné envie de vous rencontrer. On n'a pas pu au mois d'octobre parce qu'il y avait les grèves en France et vous étiez captifs.
On était un peu coincés, oui.
Entre deux, il y a eu les plantes urbaines. Mm-hmm. Donc, découverte des plantes moi, j'ai envie de dire qui défient le béton, on va en parler, c'est oui. Issu de vos expériences aussi de certains stages que vous faites dans les villes pour découvrir les plantes.
Oui, tout à fait,
et là,
ça va ensemble.
Tout chaud, enfin ça vraiment, vous venez de me le donner, donc c'est plantes d'appartement toxiques.
Oui, il sent l'encre encore celui-ci, oui. Ah oui, l'idée est quand même assez intéressante, je trouve. J'ai remarqué que la plupart des gens ont peur de la nature. Les gens, quand ils vont se promener, qu'ils voient une plante, se disent « Est-ce que celle-ci ne va pas m'empoisonner ?» Donc on ne les cueille pas, on ne les touche pas. « Touche pas, c'est du poison, méfie-toi des... »
C'est ce qu'on dit aux enfants aussi.
N'est-ce pas ? Ça commence tôt, hein, malheureusement. Bon, généralement, c'est faux. Je veux dire, il y a très peu de plantes sauvages dans la nature qui nous entoure, qui soient toxiques, qui soient dangereuses d'une façon ou d'une autre. Il y en a, bien sûr, et il faut les connaître, c'est indispensable. Mais il y en a relativement... En revanche, quand on s'intéresse aux plantes qui peuplent nos intérieurs, que nous avons achetées, bouturées, semées, fait venir
donc
d'une façon ou d'une autre,
quoi.
Dans et nos dans petits c'est... cocons bouillés, ouais. On se rend compte que la plupart d'entre elles sont effectivement toxiques, et certaines graves, comme par exemple la Diefenbachia, si on casse la plante, qu'on se met du sucre sur les mains, qu'on se frotte les yeux, on risque des conjonctivites, voire même davantage. Quoi.
Et ça, on ne le sait pas.
Non, on ne le sait pas. Donc, finalement, nos petits intérieurs sécurisants et sécurisés théoriquement sont en fait plus dangereux que la nature.
Non, mais
plus
dites-moi,
ou moins sauvage.
La fougère est dangereuse, le joli ficus est dangereux.
Ficus, ça peut être irritant, ouais. Oui, bien sûr, oui. Mais les amaryllis, par exemple,
c'est superbe.
Oui, c'est superbe. Mais si on s'amusait à faire une soupe à l'oignon d'amaryllis. On finirait à l'hôpital.
Alors justement, votre deuxième passion, si j'ose dire, c'est comment cuisiner, comment vivre finalement de ces plantes, hein, comment arriver à avoir... vous êtes un peu cannibale avec les plantes quand même.
Cannibale avec les plantes, oui, c'est vrai que je mange mes amis, moi.
Exactement.
Oui, effectivement, je n'avais pas pensé aux choses de cette façon-là, c'est joli.
Quand vous une jolie capucine pour la mettre dans la salade, il y a un esprit quand même... comme ça de la bouffer, quoi.
De la bouffer, on va le dire carrément. Mais vous savez, les plantes, c'est pas des êtres humains. Les plantes sont des êtres vivants. Certes, mais ce ne sont pas des êtres humains, donc il ne faut pas confondre. Donc si vous voulez, quand on parle de bouffer, manger, consommer une plante, pour moi, ce n'est pas du ressort du cannibalisme, du moins pas tel qu'on l'entend généralement, c'est de la communion. Pour moi, c'est ça, la communion. La communion, c'est faire de quelque chose d'autre, une partie de moi-même, et partager quelque chose avec ce quelque chose, cet autre être. Ça peut paraître un petit peu ésotérique peut-être, mais ça l'est pas du tout, c'est complètement normal. Je veux dire, de toute façon, attendez, on mange, on consomme. On consomme des êtres végétaux, on consomme des êtres animaux, auxquels souvent on n'a pas demandé leur avis. Ce qui est quand même, je trouve, un petit peu limite comme concept.
Parce que vous demandez l'avis des plantes que vous cueillez.
Écoutez, oui, enfin, je veux dire, je vais pas leur serrer la main, leur dire bonjour, comment tu vas, je vais aller te cueillir une feuille pour te manger. C'est pas comme ça. Je veux dire, mais c'est pas moi qui ai inventé ce concept. C'est pas, je veux dire, quand on lit, par exemple, la façon dont les Indiens d'Amérique du Nord concevaient la cueillette, la chasse, ben, c'était, comment dire, il y avait une communication, encore une fois, une communion. Il y avait un partage. Ils considéraient que dans la nature, on est entouré d'êtres vivants qui ont leur droit de vivre sur cette terre exactement comme nous avons le droit de le faire, et il se passe des choses entre eux et nous, et qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, on ne peut pas ne pas manger. On en est tenu pour des raisons purement physiologiques, et à mon avis également pour d'autres raisons qui font qu'on doit être très sélectif dans la façon dont on mange et surtout dans ce qu'on ingère.
Mais dans cette idée qu'on se nourrit donc non seulement matériellement, mais aussi de l'esprit d'une plante.
On peut dire ça.
Il y a quelque chose d'un peu...
Animiste peut-être.
Animiste, un peu chamanique. On le voit dans d'autres civilisations. Vous sentez un peu dans cette démarche ?
C'est pas que je m'y sens, j'y suis. Mais enfin, je veux dire, pour moi, encore une fois, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas quelque chose, c'est pas une religion particulière, c'est pas des rituels, c'est pas des trucs bizarres, c'est simplement comme ça, c'est normal, quoi. Je dirais, peut-être normal. Alors, qu'est-ce que c'est que le normal ? On va en parler. C'est peut-être pas courant, c'est peut-être pas habituel, mais je dirais c'est une question de conscience, c'est tout simplement une question de conscience. La plupart d'entre nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons, en général d'ailleurs, et ce que nous consommons. Sinon, attendez, qui, honnêtement, irait manger de la viande s'il était obligé de tuer l'animal dont il se nourrit ? Posons-nous quand même clairement cette question. Bon, voilà. Voilà.
Mais comment faites-vous, soyons un peu plus concrets pour nos auditeurs, pour donner quand même des lignes, un petit peu des conseils de vie, comment faites-vous pour éviter le supermarché, par exemple ?
J'évite pas forcément le supermarché. Je veux dire, je me nourris pas que de plantes sauvages. Je me nourris également de produits cultivés. J'aime bien ce qui est cultivé en bio, comme on dit, parce qu'il y a un respect un petit peu plus grand envers ce qui nous entoure, notre environnement, comme on dit, en y mettant des guillemets. Bon, voilà. Mais je pense...
On a l'impression quand même que vous essayez un maximum d'éviter toutes les chaînes de conservation auxquelles on est confronté tous les jours.
Mais je ne sais pas comment dire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est naturel. Quand je vais dans un supermarché, parce que ça m'arrive, je sais très bien ce que je sens comme étant, je ne sais pas, qui m'attire ou qui ne m'attire pas. Et puis après, ça se confirme au niveau du goût. Je veux dire, mes papilles sont là, elles ont été éduquées, évidemment. J'ai une culture gastronomique qui est assez bien marquée, qui évolue d'ailleurs. Et puis, je sais ce
qui évolue comment ?
Oh, bah, qui évolue vers... moi, au départ, je suis un gros mangeur de viande. Hein. Je mangeais énormément de viande. Dans ma famille, mais ça s'explique aussi historiquement. Je veux dire, je suis issu d'une famille de pauvres paysans bretons. Mon père a... s'est engagé dans l'armée, est devenu officier à la force du poignet en partant de deuxième classe. Et vraiment, c'était...
À la force du poignet, quoi.
À la force du poignet, ouais, on le sent. Je fais le geste, d'ailleurs, là, je le sens. C'est quelque chose de très fort. Il voulait monter dans l'échelle sociale. Il a épousé une fille de médecin. Donc, moi, j'ai vécu comme un petit bourgeois du 7e arrondissement à Paris. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire ? Enfin, je veux dire, il faut comprendre toutes ces choses-là. C'est relativement simple à décoder. Et d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de viande. Beaucoup de viande, beaucoup de fromage. Enfin, une culture gastronomique franco-française qui est à l'heure actuelle complètement dépassée sur le plan de la santé, sur le plan de la, je sais pas comment dire, enfin de la justesse de la,
et
de,
comment,
de la production.
Comment vous
et
donc, êtes-vous sorti de là
Juste ce que je voulais dire, parce que voilà, il faut parfois, non pas que je me force, mais que je conscientise mes responsabilités pour ne pas manger de viande, manger moins de fromage, moins de produits animaux, parce que je sais que c'est pas un bon plan. J'ai vu en Argentine, par exemple, ce que ça donne quand on coupe des forêts primaires pour mettre des champs de soja à la place, et qu'on vous dit « Ah bah là, il y a 10 ans, tu aurais été en plein milieu de la forêt », et on regarde, on voit la forêt sur les premières collines à 35 km de distance, quoi. Donc, tout ce qu'on fait a des implications dont il est important de prendre conscience dans sa vie de tous les jours, et de mettre en œuvre quelque chose qui soit cohérent avec ce qu'on a envie de vivre, quoi. Je veux dire, on peut pas souhaiter la paix dans le monde si on est constamment en guerre avec son environnement et avec soi-même.
C'est très bien dit. Vous-même, comment vous êtes sorti de cette éducation, de ce conditionnement de jeune ?
En suis-je seulement sorti, mais un petit peu quand même. J'ai eu la chance, quand j'avais 20 ans, de rencontrer un oncle à moi qui était végétarien et philosophe. Il avait de quoi être philosophe. À la Libération, il s'était pris 2 balles dans la peau, 2 ans de prison, confiscation de tous ses biens. Il a décidé de devenir berger dans les Alpes de Haute-Provence, et où je l'ai rencontré. Et il avait eu le temps de prendre un petit peu de recul par rapport à la vie, quoi. Et il m'a expliqué qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on me disait, que ce n'était pas forcément toujours tout juste, et que gober ce qu'on me racontait et de me dire que les choses étaient comme ça, point final, c'était un petit peu limité. Donc je me suis mis
à penser un petit peu différemment. Votre rencontre avec la nature, avec les plantes sauvages,
ça remonte à plus loin,
et puis vous en avez fait une connaissance. Je veux dire, ce n'est pas juste comme ça, aller intuitivement chercher des plantes. Vous êtes botaniste quand même, vous avez un côté scientifique aussi.
Oui, bien sûr, mais je ne l'ai pas fait dans le sens où peut-être on le fait souvent, c'est-à-dire de me dire à un moment, tiens, je ne sais pas trop quoi faire, je vais faire une carrière dans la botanique. Non, quand j'avais aussi loin que mes souvenirs remontent, ils remontent à quelques années, ce que j'aimais, c'était aller me balader dans la nature avec ma mère, dans les Alpes, dans le Beaufortin, pas très loin d'ici, et j'en ai toujours des images qui ne sont pas seulement des images visuelles, mais des images de perception globale du bien-être, de la curiosité, du plaisir à récolter des plantes pour faire des champignons, des myrtilles, des framboises, pour faire de la confiture ou simplement pour me goinfrer tel quel. C'était le bonheur, quoi.
Mais donc c'est un peu une nature enchantée.
On peut dire, ouais, c'est vrai, la nature c'est l'enchantement, ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est joli ça.
Oui, mais la nature n'est pas que bonne. On peut s'empoisonner aussi.
Oui, c'est vrai. Oui,
ça vous est jamais arrivé vos expérimentations?
Oui, bien sûr, j'ai fait des trucs. Je ne sais pas si je dois le dire parce que je sais pas, ça nuit peut-être à mon image. Mais bien sûr.
On vous voit pas, on est à la radio.
Ah oui, d'accord, mais on m'entend quand même. Je suis pas infaillible. Je me souviens en particulier, puis ça m'a remis un petit peu, on va dire du plomb dans la cervelle peut-être. À une époque, j'avais 20 ans exactement, et là, mon intérêt pour les plantes explosait. J'explorais tous azimuts, tout ce qui était possible et imaginable. Et entre autres, je me souviens une fois avoir fait des beignets d'acacia avec ma copine et m'être senti très mal après, très mal au point de vomir, heureusement d'ailleurs, et elle idem. Mais comme ça allait mieux, le soir, il restait des beignets, je me suis dit, allez, on va remettre ça. Ils étaient super bons, ces beignets. J'étais assez doué pour la cuisine. Et elle avait compris qu'il devait y avoir un rapport entre les beignets et l'empoisonnement. Elle a tout balancé à la poubelle. Je l'ai engueulé. Bon, c'est pas très gentil, mais en tout cas, je crois qu'elle m'a sauvé la vie parce qu'en fait, c'était du citise, quoi. C'est-à-dire que j'avais récolté des fleurs pas blanches, mais des fleurs jaunes. Et ces fleurs jaunes de citise sont mortelles, quoi. Peuvent être mortelles. Donc, effectivement, et après, le lendemain.
Ça vous a rendu un peu plus prudent.
Je suis allé regarder un petit peu. J'ai vu que, fleurs jaunes, citise, mortelles, pas bon.
Toi, pas touché ça.
Oui, c'est un petit peu ça, et puis du coup je me suis dit non, attends, et là il faut être vraiment sérieux, et je me suis mis à étudier les plantes d'une façon extrêmement précise, ponctuelle, scientifique. Effectivement, il faut le dire, j'ai passé mon doctorat par la suite, parce que je me suis dit il faut faire les choses bien.
Combien de plantes vous avez en tête comme ça, là maintenant,
si on sort? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, j'ai pas idée.
C'est énorme.
Je ne sais pas,
vous
probablement.
Savez pas.
Ça vient comme ça, c'est pas. Je ne sais pas, je veux dire. Je ne sais pas.
Vous savez, pour la plupart des gens, on connaît quelques plantes, enfin et encore.
Mmh. Et là, non, j'en connais plus.
Vous en connaissez un peu plus. Quand on va dans la nature, on peut aimer, c'est esthétique, il y a effectivement le bien-être dont vous parlez, mais on n'a pas une connaissance de décoder. Et je pense que vous, quand vous promenez dans un bois, vous voyez d'autres choses que la plupart d'entre nous.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Et c'est mon job de faire partager cette connaissance un peu plus poussée, on peut dire, plus large, plus profonde, avec mes contemporains. C'est pour ça que je suis sur Terre d'une façon, comment dire, concrète, dans mes rapports avec les autres et professionnellement.
Alors nous sommes en votre compagnie, François Couplon, jusqu'à 11h pour parler donc des plantes, peut-être saisir une ou deux de vos connaissances et les retenir. Le temps d'un morceau, d'une chanson, et ce sera le temps de billets de Lucas Torrent qui va vous prendre un peu à rebrousse-poil. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur La Première.
Rien n'est joué sur La Première.
Nadja El Mahmoud et Mickey 3D, réveille-toi. Et il est temps de recevoir Lucas Torrent.
François Couplan, vous rencontrez le succès parce que vous répondez à une attente primordiale de l'homme. Je ne parle pas de l'art de porter le chapeau en 2010 avec talent et élégance, domaine dans lequel vous êtes un maître, chacun le sait. Non, je parle du fait de pouvoir vivre en autarcie complète dans la nature. Il me semble que l'humain aujourd'hui a un fantasme, c'est se débrouiller tout seul dans Gaïa, en autarcie totale. C'est le rêve de beaucoup de gens. Pensez à Koh-Lanta, série télé dont le succès ne faiblit pas. Et bien là, c'est vrai que la scène où la jolie fille en maillot de bain, même si elle est recouverte de piqûres de moustiques, mais quand elle se penche en avant et elle déterre une racine de manioc. Et là, elle hurle de plaisir. C'est vrai qu'en chacun de nous, ça réveille quelque chose. Il y a une corde primitive qui vibre, hein, parce que c'est notre fantasme aujourd'hui, mais ça l'a aussi été avant. Pensez à Robinson Crusoe qui s'est construit un palace 5 étoiles avec un cure-dent et puis un peu de liane. Il y a donc en chacun de nous le rêve de vivre dans la nature en prenant, ou devrais-je dire en empruntant, à Gaïa. Et c'est à ce besoin, à ce désir, à ce fantasme que vous répondez, François Couplan. François Couplan, vous êtes ce guide, vous êtes ce chaman, cet ami qui nous dit « Viens, viens-toi, citadin, prends ma main, avance avec moi dans ce paysage verdoyant, nourris-toi de cette plante, de cet arbre, peut-être qu'avec beaucoup de salive, tu pourras mollir son écorce et la mâcher. Nourris-toi de cette racine que tu n'avais pas vue, que tu n'avais peut-être même pas regardée et sur laquelle tu t'apprêtais à faire pipi en chantonnant. Oui, vous nourrissez ce besoin de retour à la nature, d'autarcie et dans le domaine le plus vital, la bouffe. Parce que se construire une cabane en peau de chamois, c'est bien beau, mais on ne peut pas manger les poutres. Mais là, je dis attention. Attention parce que la nature donne, oui, c'est vrai, elle donne d'une main, mais elle pince les tétons de l'autre. La nature, c'est Gaïa, notre mère à tous, mais c'est une maman qui tape. Hein, chaque année en Suisse, je vous le rappelle, il y a une foule de gens qui meurent parce qu'ils ont mangé des plantes. Hein, il y a deux fois plus de personnes qui meurent d'intoxication chaque année en Suisse à cause des plantes qu'à cause des champignons. Hein, parce qu'on se méfie de ce bolet purulent qui a traîtreusement poussé sur un coin d'humus à l'ombre d'un arbre malade. Mais par contre, on ne se méfie pas de cette plante rieuse et verte comme une caresse de la terre elle-même. Hein, on ne se méfie pas de l'ail des ours. Et pourtant, l'ail des ours ressemble pratiquement totalement au colchique d'automne. Et si vous mangez du colchique d'automne, rendez-vous compte, d'abord vous aurez des troubles digestifs, puis vous mettrez à hurler, à vous tordre de douleur, puis finalement vous serez mort. Tandis que si vous mangez de l'ail des ours, d'abord vous allez mâcher, puis ensuite vous allez puer de la gueule. Ça s'arrête là, et quand même, les conséquences sont très diverses. Alors ce fantasme de vivre dans la nature, de sustenter tout seul comme un grand, peut-être doit-il justement rester un fantasme pour la plupart des gens. Parce que dans le fond, vivre en ville, c'est pas si mal. Hein. Et se faire voler son vélo, c'est toujours mieux que de se faire boulotter par un ours, ou pire, par une plante.
Rien n'est joué sur la première.
Ça vous fait sourire,
ouais,
François Couplan.
Boulotter par un ours, c'est...
C'est pas si fréquent.
Non, c'est pas si fréquent, même là où il y a des ours. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'ours en Suisse.
Mais il y a quelque chose de cette recherche de Robinson Crusoe, ce que disait Lucas, c'est-à-dire un côté un peu d'autonomie absolue, de ne pas dépendre, de pouvoir se débrouiller tout seul.
Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est ça fait partie du paradoxe de l'être humain, ça. D'avoir envie d'être indépendant et en même temps d'être un animal social, extrêmement dépendant. Des autres, et qui plus est de sa culture. C'est quelque chose que moi j'ai vécu, j'ai passé 10 ans aux États-Unis, dont une bonne partie dans la nature, et effectivement j'avais ce besoin de me retrouver seul, confronté à Gaïa, comme il dit.
Comme dit Lucas.
Oui, pourquoi pas.
Ça veut dire quoi ? Que vous deviez vous nourrir de plantes sauvages ?
Alors, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait, ouais. Bien sûr. Bon, quand on connaît, c'est pas très 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 compliqué. Et il faut choisir les lieux et les saisons. Hein. Je veux dire, ce n'est pas en ce moment, dans les montagnes enneigées, que ce serait le plus facile, loin de là. Mais bon, moi j'aimais bien, c'était absolument génial de me retrouver moi-même et de me retrouver effectivement totalement indépendant. C'est quelque chose que je voulais faire, moi. Étant donné que je trouvais la société extrêmement coercitive et que j'y trouvais beaucoup de facettes que je jugé négatif, que j'avais pas envie de suivre.
Vous aviez quel âge quand vous avez fait cette expérience ?
Oh, j'avais entre 24 et 34.
Mais ça veut dire que pratiquement, vous alliez vraiment dans les bois cueillir des choses et les cuisiner et les manger.
J'y vivais, quoi. Ah non, aller dans les bois cueillir des choses et les manger, ça je le fais pas en ce moment parce que c'est un petit peu frais, mais je le fais au quotidien, je le fais de façon régulière. Mais là, j'ai vécu pendant des jours, des semaines, des mois dans les bois, tout seul, avec les ours. Justement, il y avait des ours là-bas. Je me souviens qu'une de mes plus grandes peurs de ma vie, ça a été de rencontrer une vache qui s'est avérée être un ours, en fait, et pas une vache. Bon, mais il n'y a jamais eu le moindre souci. Mais en même temps, au bout d'un certain temps, j'étais obligé de sortir des bois, non pas parce que je pouvais plus vivre, non pas parce que c'était trop difficile, au contraire, je me suis jamais aussi senti aussi bien d'un point de vue de la légèreté de l'esprit et du corps, parce que ça c'est très important, du fait de se nourrir peu et de se nourrir avec des éléments de la nature, mais on se sent bien, mais c'est pas possible, quoi. On est en pleine possession de ses moyens et on est d'une légèreté.
Vous fumiez rien de particulier ?
Fumer, non, je suis allergique à la fumée, ça me...
Mais plus sérieusement, c'est une vraie... Parce que vous jouez un peu dans votre image avec ces deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a le rapport à la nature, qu'il y a quelque chose d'un peu, entre guillemets, un peu brut, un peu direct, un peu concret. Enfin, il faut... en même temps, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a étudié, vous n'êtes pas comme n'importe qui irait là, maintenant, dans la forêt pour faire son panier.
Donc,
il y a ces deux côtés.
Oui, bien sûr, mais ils sont complémentaires. Je veux dire, justement, quand je vivais aux États-Unis, avant de partir dans les bois, je passais des jours, des semaines et des mois dans les bibliothèques à écumer tout ce que je pouvais trouver comme littérature sur la question des plantes sauvages comestibles, histoire de savoir ce que je pouvais trouver. Et quand j'étais in situ, j'étais content de pouvoir reconnaître et utiliser les plantes dont j'avais lu qu'on pouvait
les consommer
d'une façon ou d'une autre, et à mettre ça en pratique la plupart du temps avec succès, il faut bien le dire. Et là, après l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne me suis plus empoisonné du tout, et c'est pas difficile de poisson empoisonné, ça demande un minimum de prise de conscience, je dirais, et de connaissance.
De connaissance aussi.
Oui, de connaissance, bien sûr.
Alors, on vous a imaginé pas mal de temps dans la nature, avec des stages, mais moi, ce que j'aimerais évoquer maintenant, ce sont les stages que vous faites en ville, carrément.
Oui,
c'est-à-dire, dans ce livre Plantes urbaines, on vous voit carrément sous les ponts, sur les terrains vagues, enfin, dans des endroits où on n'irait pas forcément faire cueillette, montrer aux gens... Tout ce qui pousse, presque malgré notre envie de tout dominer par le béton, qui surgit. Mais est-ce que tout ça, d'abord, je pense que c'est très utile pour connaître ces plantes, mais je ne me vois pas me faire une soupe quand même de tout ça, avec tous les gaz d'échappement et tout ce qui se passe.
On est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Je veux dire, en ville, d'une façon générale, je dis bien d'une façon générale, parce qu'il y a ville et ville, et puis il y a lieu et lieu. Mais d'une façon générale, je veux dire, c'est évident, on ne va pas aller cueillir sa salade au bord d'un boulevard ou à proximité dans une zone industrielle.
Comment vous faites ces stages? Donc, ça, c'est souvent à Paris, si mes lectures sont justes.
Ce que je fais d'une façon générale, je fais ça au bois de Boulogne, parce que le bois de Boulogne, c'est emblématique, c'est facile d'accès, c'est une nature d'ailleurs relativement vierge, puisque c'est l'ancienne forêt des Carnutes qui n'a jamais été ni cultivée, ni bâtie, ni construite, l'un des rares endroits quand même dans nos régions, alors qu'on est complètement en ville, donc c'est totalement emblématique, bon, c'est facile d'accès, on sort du métro et bing, on se trouve... peut-être pas dire en pleine nature, mais dans une proportion de nature vraiment très, très, très importante. Et puis voilà, avec des tas de plantes, avec moi, on se promène, on regarde, on goûte, parce qu'on peut quand même goûter, je veux dire. Il y a des endroits qui sont suffisamment loin. Le bois de Boulogne est traversé d'allées, ce qu'on appelle des allées, dont beaucoup sont ouvertes à la circulation, mais il y a quand même des tas de coins qui sont protégés, où il n'y a pas plus de pollution que sur les légumes qu'on achète couramment dans les supermarchés. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rigoler, non plus. Quand on va se gorger de pesticides divers, comme le font la plupart de nos contemporains, qu'on n'aille pas faire la chochotte et dire, bon, allez, je ne vais pas ramasser parce que c'est en ville et qu'il y a des petites poussières dessus. Il faut choisir, il faut être sélectif. Encore une fois, je reviens toujours à ce terme, je pense que c'est le terme principal, c'est une question de conscience et de connaissance. Les deux vont de pair, quoi. Quand on a la conscience, on a le mouvement qui nous permet d'apprendre, et ensuite, il n'y a plus qu'à apprendre. Et là, en l'occurrence,
on prend une plante, on la sèche pour ne pas l'oublier, on colle
des échantillons.
Comme un herbier,
comme on fait dans les stages que j'organise un petit peu partout en Suisse, entre autres, quand il y a des plantes, donc du printemps à l'automne, où là, en plus de reconnaître les plantes, d'en parler, de les sentir, de les goûter, de les sentir, donc d'établir une relation avec la plante par tous nos sens, ce qui est possible absolument partout. C'est vrai que dans mes stages habituels, ça c'est la base, c'est de cueillir les plantes pour les cuisiner ensuite, et puis préparer des repas un petit peu particuliers, des gougères de géranium, des soupes d'ortie bien évidemment, des gratins d'égopode, des choses qui sortent effectivement de l'ordinaire, des veloutés de courgettes aux fleurs de sureau, des machins, ou des sablés de feuilles de tilleul, des trucs rigolos qui sont là pour faire prendre conscience, encore une fois, que la nature qui est autour de nous, elle nous offre ce dont on a besoin pour se nourrir, d'autant plus que ces plantes sont gorgées de nutriments. Je veux dire, c'est pas juste de l'anecdote, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour se donner des sensations, ce qui est pas mal aussi, mais ceci parce que ce sont les aliments de base de l'être humain. L'être humain, au fil des millions et des millions d'années, on va dire, a évolué avec les plantes et s'est nourri de ces plantes qui lui ont donné la vie et qui l'ont fait tel qu'il est. On les a oubliés, c'est un phénomène qui est récent, qui remonte au Moyen-Âge, en grande partie, quand il y a eu un clivage de la société en deux, et que les élites ont voulu se démarquer en s'habillant différemment, en vivant dans des châteaux, en parlant un langage qui n'était plus du patois, et en cultivant des plantes...
En mangeant différemment.
Qui provenaient d'un petit peu tous les coins du monde, mangeant différemment, de la viande, du sucre, des produits raffinés et tout, quoi, je veux dire. Mais en particulier, surtout, plus de plantes locales, plus de plantes sauvages, parce que ça faisait quand même vachement mieux de manger des haricots verts, de manger des petits pois, parce que ça provenait d'un petit peu tous les coins du monde et qu'il fallait avoir un jardinier pour les cultiver. C'est plus difficile, c'est plus compliqué à cultiver. Donc c'est un symbole de statut supérieur que de pouvoir manger ces plantes, ces légumes, ces fruits, ces condiments qui viennent de partout dans le monde, plutôt que les bêtes plantes que nos ancêtres ont consommées depuis des millénaires et que nous offre toujours la nature.
Et qui poussent un peu sauvagement, sans l'intervention de l'humain.
Exactement.
Alors, pour donner une idée de cette coexistence instable entre l'être humain et la ville, vous reproduisez une histoire de Woodstown d'Alphonse Daudet. Vous voulez la raconter en deux mots ?
Ah, en deux mots, ce sont des pionniers sur les bords du Mississippi qui construisent qui édifient une ville.
En bois.
Une ville en bois, en l'occurrence, oui, comme ça se fait encore beaucoup aux États-Unis. La plupart des constructions sont toujours en bois aux États-Unis, il faut le dire. Et, ils construisent, ils établissent une belle ville, mais...
Ils poussent un peu le bois, quoi. Ça se crée au milieu du bois.
Comme nos ancêtres l'ont fait. Je veux dire, nos ancêtres, les Gaulois, comme on dit, ils vivaient au milieu de la forêt. Oh, que ce soit les Daces, en l'occurrence, ils vivaient aussi au milieu de la
forêt. Les Daces, en Roumanie, en
bois. Oui, voilà.
On a poussé les bois, la nature, pour faire notre place.
Ils vivaient tous au milieu de la forêt. Les paysages tels qu'on les voit maintenant, ça date, la déforestation systématique donc, qui a donné ces paysages, ça date du XIIIe siècle. Les moines défricheurs, ces fameux moines défricheurs qu'on a sanctifiés et qui se sont, qui ont détruit systématiquement toute la nature européenne pour, d'une part, créer des domaines productifs et donc enrichir les monastères, d'une part, et puis d'autre part, pour éliminer le refuge des dieux païens, parce que à l'époque, les chrétiens, c'était, ils n'étaient pas très nombreux.
Oui, les dieux païens étaient souvent dans les bois.
Justement. Mais ils étaient dans les bois, c'est normal. Les dieux païens, ils font partie de la nature. Ce sont des dieux de la nature. Donc, on a systématiquement déforesté à cette époque, c'est resté dans notre culture, comme la forêt, c'est quelque chose de dangereux, quelque chose qui nous menace, quelque chose dont il faut se méfier, quelque chose dont il faut avoir peur, quelque chose qu'il faut détruire. Donc voilà, mais concrètement, évidemment, on arrive au bord du Mississippi où on a une forêt majestueuse absolument extraordinaire, on veut établir une ville, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la forêt, c'est bien obligatoire. Après, là, en l'occurrence, la forêt, elle se défend. La forêt, quand on coupe une planche, par exemple, la planche, elle se met à bourgeonner. Elle se met à développer des rameaux, des feuilles. Et au bout du compte, les gens de Woodstown sont obligés de partir parce que la ville est reconquise par la forêt.
L'humidité aidant aussi.
Je ne sais pas si vous connaissez le climat du Mississippi, mais c'est un peu chaud et humide en été. Donc c'est vrai que vous mettez une graine par terre, c'est comme dans les tropiques, ça pousse tout seul, on n'a qu'à regarder pousser. Moi j'adore, c'est magnifique. Mais évidemment, ça peut avoir un côté un petit peu inquiétant, cette prolifération végétale quand on a notre culture occidentale du propre en ordre, où tout doit être à sa place, et surtout, je ne veux pas avoir une mauvaise herbe qui dépasse du rang, quoi. Vous voyez ? Mais cette image de Woodstown, c'est celle qui nous guette partout, aussi bien dans cette bonne cité vaudoise de Lausanne qu'à Paris, qu'à New York.
L'impression qu'on est en sursis quelque part.
Oui, bien sûr, on l'est. C'est pas compliqué. Laissez pendant 10 ans n'importe quelle ville sans rien faire, ici, Lausanne, laissez pendant 10 ans. Mais vous allez voir qu'au milieu des chaussées, vous aurez... Enfin, déjà, ça va commencer par tous les interstices entre les pavés, entre les plaques de béton, partout où il y a un petit peu de terre, au bas des murs, tout ça. Vous allez voir plein de plantes qui vont se mettre à pousser, qui vont se développer. Au bout de 10 ans, vous aurez déjà des arbustes. Attendez 50 ans, attendez 100 ans, vous avez une forêt. Attendez 400 ans, vous verrez même plus trace des bâtiments ou juste quelques ruines au milieu de la forêt. C'est merveilleux la vie, non ?
Je vais vous faire écouter quelqu'un qui est aussi passionné que vous des plantes en ville.
Alors sur un vieux mur comme ça, vous pouvez très bien voir l'évolution. Par exemple, après les glaciations, nous avions un pays de veaux complètement vide de plantes. Sous 1000 mètres de glace, on n'a rien eu. Et puis dès que de la place sur les arbres, sur les cailloux partout, pardon, pas sur les arbres, sont apparus les lichens. Voilà, ce sont des lichens.
Ce qu'on voit tout en haut, là.
Voilà, ça, ce sont des lichens.
Ces petites taches blanchâtres.
Oui, blanches, noires. Une association d'algues et de champignons qui dure depuis 400 millions d'années, mais qui dure toujours. Donc, c'est une très bonne association. Ils vont faire un petit peu d'humus. Ce petit humus va permettre à se développer des mousses. Et à partir des mousses, l'humus va être un peu plus conséquent. On va commencer à voir les plantes plus évoluées comme ces petites fougères. Elles restent très touffues, mais vous voyez qu'elles ont très bien suivi toute la crevasse du mur pour s'implanter dans des endroits où il n'y a pratiquement rien.
Elles vivent de quoi ?
Elles vivent beaucoup d'air et d'eau, comme les lichens du reste. Mais il y a quand même un petit fond d'humus qui leur permet de survivre, d'emmagasiner un peu d'humidité pour les jours difficiles. On l'appelle la rue des murailles. Donc c'est une fougère, ce n'est pas encore des plantes à fleurs. Si vous regardez à l'envers, vous verrez qu'elle produit des petites taches. Comme les champignons, ce sont des amas de spores. Elles vont se propager par des spores. Alors bien sûr, nous sommes de l'autre côté d'un parc. Un parc qui a de grands arbres, dont un érable. Et puis là, on voit quand même qu'il y a davantage de possibilités pour une plante de s'imposer. La fissure est beaucoup plus grosse, l'humus est plus conséquent. C'est un érable sycomore.
Rien n'est joué, Lydia Gabor.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you.
Rolling in the Deep, Adèle, sur Radio Suisse Romande, la première. Et nous parlons de plantes sauvages.
Là, on a les capucines aussi, qui ont des super belles couleurs. Il y en a des belles oranges, jaunes.
Très, très belle, oui.
Les capucines, c'est au niveau gustatif. Enfin, déjà au niveau visuel, j'adore la texture et puis la forme de la plante. Mais ça, dans une salade, c'est magnifique au niveau visuel. Et puis au niveau du goût, c'est génial. C'est un petit côté piquant là, qui est extraordinaire. Vous voulez goûter ?
Oui.
Faut bien, ça vient le goût là. Le à la maison, j'ai eu de la chance d'avoir... une mère qui faisait un jardin, qui avait toujours plein de petites herbes et tout ça, donc elle m'a déjà donné ce goût-là. Ouais. Et puis, on ramassait aussi des choses dehors, dans la nature. Comme quand j'avais mal au cou, bah hop, succandi dans une rave, et puis je buvais le jus. C'était normal, mais j'avais pas l'explication du pourquoi. Alors ici, on passe vers des arbres, et puis là, bah, y en a une... Enfin, il y a les baies qui sont bientôt mûres.
Oui, alors ça, c'est le classique sureau.
Voilà, c'est le classique sureau, mais c'est une plante qui est merveilleuse, quoi. Elle protège les maisons aussi. Elle a toujours été utilisée en sorcellerie aussi. Elle a un apport. Ben justement, il y a souvent des mélanges entre les deux. Et puis là, ben, tout est bon, quoi. Les fleurs, maintenant les fruits, on peut en faire plein de choses.
Une plante de sureau, tout le monde l'identifie ? Tout le monde la reconnaît ?
Pas tout le monde la reconnaît. Ici, dans la région, quasi tout le monde connaît. Mais du moment qu'il y a des citadins qui viennent, donc des grandes villes, hein, je ne dis pas d'une petite ville, il y en a qui ne la reconnaissent pas.
Marlène Galetti, c'était au micro de Jean-Marc Falcombello, une émission d'Espace 2. François Couplan, vous la connaissez, c'est une de vos émules.
Oui, passionnée. Peut-être on peut dire ça.
Elle a suivi, elle parle de vous aussi.
On donne pas mal de stages depuis. Oh, ça fait combien ? Moi, ça fait 36 ans.
Alors, on sent le petit côté un petit peu ironique. Quand quelqu'un de ville vient, pas de petite ville, proche de la nature, mais de grande ville.
J'ai bien aimé, oui. Bon. Il y a des gens dans les grandes villes qui connaissent des tas de choses. Puis il faut dire une chose, non, soyons raisonnables. Marlène, soyons raisonnables. Les gens de la campagne, franchement, ils connaissent plus grand-chose, quoi. Vraiment plus grand-chose, ouais. Et même souvent moins que certaines personnes des villes qui s'intéressent à ça.
Mais comment on a perdu complètement tout ça ? Alors, né en ville, je peux encore comprendre. Complètement citadin, dans une grande ville, je peux encore comprendre. On ne sait même plus distinguer les salades et les fleurs. Mais quand même, comment on a pu perdre ça à ce point et si vite ?
Symbole de statut. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça a commencé au Moyen-Âge. Donc, avec les...
Il y a que ça.
Non, il n'y a pas que ça. Ensuite, je veux dire, les paysans qui sont montés en ville sont devenus des ouvriers. Ils ont voulu devenir comme les bourgeois. C'est normal. Je veux dire, on s'adapte, on se fond dans le moule. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est... Et je l'ai vécu chez moi. Je vous ai dit, avec un père paysan qui est devenu citadin, qui est devenu bourgeois. Mais il voulait absolument oublier toutes ses connaissances traditionnelles, quoi. Tout ce qui lui rappelait la campagne, tout simplement, quoi. Et donc, il y a eu, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une citadinisation, une urbanisation des campagnes. Sur le plan aussi bien, on s'en rend compte. Enfin, je veux dire, maintenant, les gens à la campagne vivent comme en ville, et également sur le plan des mentalités. Qui font que, malgré quelques sursauts, où on essaye de valoriser un petit peu quelques aspects de la culture paysanne, quand même, mais en tout cas, certainement pas ce qui a trait à la nature et aux connaissances traditionnelles.
Vous en voulez à l'agriculture, vous, je le sens.
Oh ben j'en veux à l'agriculture, moi, c'est pas...
À la création de l'agriculture, il y a 10 000 ans.
Non, attendez, soyons clairs, vous me provoquez, là, je vois ça. Mais non, l'agriculture, moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Je trouve qu'il faut un équilibre entre, on va dire, campagne et nature. Mais surtout, il ne faut pas confondre les deux. Je veux dire, la nature, c'est là où on ne perçoit pas la trace de l'homme. Donc voilà, la campagne qui est de la nature modifiée par l'homme, ce n'est pas la même chose. Et dans nos pays, de la nature, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a aucune forêt primaire, aucune forêt vierge en Europe, point final. Quelques endroits où on fiche un petit peu la paix à la nature depuis longtemps, mais c'est rare, quoi. Donc on a un déséquilibre grave du côté de des activités humaines dont l'agriculture est la première. Et il est exact qu'il y a 10 000 ans, quand l'homme a choisi la voie de l'agriculture, pas du tout parce qu'il avait faim ou ce genre de choses, mais parce que c'était une expérience intéressante. D'ailleurs, à l'heure actuelle, tiens, une des nouveautés, c'est qu'on se dit qu'il a voulu cultiver des céréales pour fabriquer des boissons enivrantes pour la religion. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Se mettre à cultiver pour se saouler, je trouve ça plutôt bien.
Ça vous plairait encore.
Moi, ça me plaît pas mal. Voilà. Toujours est-il que, pendant très longtemps, agriculture et cueillette ont coexisté, c'est sûr. Mais à partir du moment où on cultive en tout cas, notre culture occidentale à base de céréales, où on crée des surplus, forcément, on va par contre-coup, créer la guerre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être plus costaud, plus malin, plus nombreux, qui va venir et qui va venir vous voler votre récolte, vos femmes et vos enfants. On a inventé la guerre et l'esclavage, c'est obligatoire. Les gens vont se spécialiser, vont s'enfermer justement dans des villes, là où des épidémies vont se développer, on va créer une hiérarchie, la répartition du pouvoir, la concentration du pouvoir aux mains de quelques personnes. Je veux dire, dans la première graine qu'on a mis en terme, il y avait le germe de la bombe atomique. C'est inéluctable. Moi, ça ne me déplaît pas forcément.
Non, mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous voulez dire l'attitude mentale qui fait qu'on veut maîtriser, qu'on veut cultiver, va amener jusqu'à la bombe atomique.
On va développer la technologie. La technologie, elle commence par où? Elle commence par l'aspect militaire des choses. Je veux dire, de partout. Internet, ça a été créé par les militaires, par exemple. C'est super génial. Mais il n'empêche que le nucléaire, ça a été développé aussi comme arme de destruction au départ. Pourquoi? Parce que plus il y a de monde, plus on concentre le pouvoir, plus on veut avoir des armes puissantes pour pouvoir conserver ce pouvoir. C'est complètement logique, je veux dire, c'est normal. L'être humain, il est fait comme ça. On n'a pas le droit de penser que les choses puissent être autrement. Elles peuvent l'être, bien sûr, mais ça passe par une prise de conscience de toutes ces choses et de toutes horreurs que crée l'être humain.
Ça nous amène très très loin. On parle des plantes sauvages et on arrive à la bombe atomique.
Oui, bien sûr, c'est normal.
C'est normal, c'est une logique, c'est une chaîne, en fait, finalement, absolument. De pensée. Je m'aperçois que vous êtes aussi autant philosophe que botaniste, parce que ce qu'on fait ce matin, c'est un peu...
Pour moi, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Bon, on est 10 000 ans plus tard, on ne peut plus se transformer en chasseur-cueilleur. Là, dans l'immédiat.
Chasseur-cueilleur, non, certainement pas. Mais on peut, et c'est ça qui est important, retrouver une relation réelle avec les autres êtres vivants qui vivent autour de nous dans la nature et qui ont tout à fait autant le droit de vivre que nous. Et à partir du moment où on a développé cette relation, où on a fait cette prise de conscience, où on a ce regard, où on a ce vécu de chaque instant, où on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est qui est autour de moi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? Eh bien, je vous assure que ça change les choses pour chaque individu, et c'est la seule façon, à mon avis, de pouvoir changer les choses d'une façon globale.
Donc l'idée, c'est que si on connaît mieux la nature, on va coexister de façon plus pacifique.
Si on connaît mieux la nature, on se connaît mieux soi-même, donc on va pouvoir prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, et agir d'une façon où finalement on fait du bien à tout le monde et à tous les êtres, plutôt que d'avoir peur, d'être toujours sur la défensive, d'avoir envie de se battre constamment, et en particulier de se battre contre la nature, ce qu'on fait depuis 10 000 ans, effectivement.
Vous l'enseignez tout ça, quelque part ?
Alors, si vous voulez, moi, je le dis, parce que pour moi, c'est fondamental, mais c'est jamais la première chose que je vais dire. La première chose que je vais faire, c'est, je vais amener les gens devant une plante, et je vais leur dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ah, au début, il se passe rien. Mais attendez, touchez, vous avez des sens, quoi. Vous la voyez très bien, mais observez-la, regardez de près, approchez-vous de la plante ou approchez la plante de vous, et puis sentez, goûtez, qu'est-ce qui se passe? Et là, attendez, cette feuille de plantain, mais je l'ai vue, il y en a partout du plantain. J'avais jamais pensé que ça pouvait avoir une odeur de champignons, de rosée des prairies, une petite saveur un peu anisée. Et ce goût, on le retrouve, et on va faire du pesto de plantain. Vous vous rendez compte, cette plante sur laquelle je marche, où tout le monde...
Du pesto, donc de la sauce pour les spaghettis, pour les pâtes.
Ouais, une petite recette vite fait. C'est du plantain très finement ciselé, des noisettes grillées à la poêle, moulues, et tout ça mélangé avec un petit peu de fromage râpé. Sel, ail écrasé, huile d'olive, bam, et on a le pesto, là, en 10 minutes, c'est fait, et on a quelque chose qui est extraordinaire, un pesto de plantain, qui a un goût de champignon, avec des pâtes. Attendez, ça vous change votre perception de la nature, ça vous change votre relation avec ce qui vous entoure, donc ça vous change vous-même, c'est chouette, flûte, à mon avis, on est un petit peu là pour ça, quand même, pas pour rester à se traumatiser constamment.
Je précise pour nos auditeurs que dans le premier ouvrage dont j'ai parlé, Cuisine sauvage, accommoder 1000 plantes oubliées, c'est là qu'on trouve énormément de recettes, mais alors vraiment énormément de recettes. C'est votre qualité de cuisinier, comme vous le dites. Donc nos auditeurs peuvent se référer s'ils veulent, par exemple, manger des sablés au tilleul ou manger de la confiture de pétales de rose. Alors celle-là, donnez-la moi. Comment on prépare la confiture de pétales de rose?
Alors il faut déjà prendre des roses odorantes, ça c'est la première des choses.
Mais pas à la Migros, disons.
Les roses, ben non, des roses. Mais alors là, on va pas les trouver dans la nature, les roses odorantes. Hein. La rose de Damas ou la rose de Provins, on la cultive.
D'accord.
On peut en mettre facilement chez soi.
Ça
se trouve dans la nature, mais elle est protégée dans la nature. On va pas aller la toucher. Précision quand même, ça tombe sous le sens, mais on ne touche jamais à deux catégories de plantes, les plantes toxiques et les plantes protégées. On est d'accord.
Donc voilà. On est un peu mal pris avec cette rose odorante.
Ah ben on va pas le trouver dans la nature, moi j'en ai dans mon jardin.
Voilà,
j'en
donc
ai
il faut
mis.
Cultiver, d'accord.
Ouais, mais ça pousse tout seul, ça revient tous les printemps. Et au mois de juin, je récolte les pétales. Moi,
il faut beaucoup de pétales pour faire un petit pot de confiture de pétales de rose.
Non, pas tant que ça. Moi je les mets, vous savez, j'ai un truc très simple, c'est la confiture crue. Je mets une couche de pétales, une couche de sucre, une couche de pétales, une couche de sucre. Je laisse au soleil pendant une quinzaine de jours. Et puis après ça, je mets en bocaux. Bien fermé, je garde au frigo quand même, c'est préférable. Hein. Et puis je consomme au fur et à mesure. Et alors là, vous avez le goût, quoi, parce que c'est pas cuit, quoi. Vous avez le goût total de la confiture, quoi. Mais ouais, moi, enfin, j'aime la cuisine, effectivement. C'est vrai, dans ce bouquin Cuisine sauvage dont vous parliez, j'ai mis 300 recettes qui sont détaillées. Mais en plus, et c'est ce livre qui, quand il est paru la première fois, m'a fait rencontrer Marc Vera, avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Grand cuisinier. Grande rencontre.
Devant l'éternel, grande rencontre, un grand ami. Et parce que là, j'explique la façon dont on peut fabriquer soi-même, créer soi-même ses recettes à partir des différentes parties des plantes, quoi. Voilà. J'aimerais bien dire une chose aussi, c'est que ces bouquins que vous avez cités, c'est aux éditions du Sang de la Terre, je tiens à le dire, parce que moi j'ai publié une soixantaine de bouquins chez plein d'éditeurs différents, et là j'ai tout recentré chez un éditeur qui est quelqu'un qui est vraiment très très bien.
Alors le nom déjà, Sang de la Terre.
Sang de la Terre, oui.
C'est les plantes, c'est la nature, Sang de la Terre, il y a un côté sacrificiel.
Oui, je sais pas si c'est mon truc, mais ça s'appelle comme ça, quoi. Et vraiment c'est chouette, quoi. J'ai vraiment envie d'une façon générale dans ma vie de travailler. De vivre avec des gens qui sont sympas, qui avancent, qui bougent, avec qui ça se passe bien, quoi.
On va préciser aussi qu'il y a beaucoup d'images dans les trois ouvrages dont j'ai parlé ce matin. Il y a beaucoup d'images, donc ça facilite l'accès, disons, à l'information.
Oui, ça c'est important. Il faut voir les plantes, c'est notre première science, notre premier sens. Après, notre deuxième sens, ça serait l'ouïe. Mais l'ouïe, les plantes, c'est pas forcément toujours très facile. Mais après, justement, on va utiliser le toucher, l'odorat, le goût pour s'approcher des végétaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que sur le terrain. Les livres, c'est un point de départ. C'est très bien, il le faut. Mais il ne faut pas en rester prisonnier. Vraiment, après, il faut aller sur le terrain.
Il faut sortir.
Et c'est toujours mieux d'aller avec quelqu'un qui connaît. Évidemment, suivez mon regard. Mais,
mais comme vous disiez, vous n'êtes pas éternel.
Je ne suis pas éternel.
Non, apparemment. Donc...
Non, je ne pense pas l'être. Donc, ça fait déjà quelques temps que je pense à transmettre le
Et vous avez créé une école.
Et là, il y a quelques années, j'ai créé une école, effectivement, une formation sur 3 ans.
À Lyon.
À Lyon, oui.
Le collège pratique d'ethnobotanique.
Ah, vous savez tout, c'est merveilleux.
J'essaye.
Et oui, donc le principe, c'est un week-end par mois et puis plusieurs stages dans l'année où on fait du concret et également du théorique.
Et il faut être botaniste de formation ?
Absolument pas. Non, c'est ouvert absolument à toutes les personnes qui, je dirais, sont de bonne volonté, comme on dit, mais qui ont vraiment envie de bosser parce que c'est vraiment du boulot, quoi. C'est vraiment quelque chose qui...
il faut l'apprendre par cœur, il faut les connaître par cœur, plus ou moins.
Il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur. Les noms des plantes, on les apprend par cœur, mais en même temps, les noms des plantes, vous voyez, il y a toujours des biais, quoi. Par l'étymologie, par exemple, quand on comprend, et ça passe toujours par la compréhension, quand on comprend ce que signifie le nom d'une plante, par exemple, eh bien, on va le retenir beaucoup mieux. Ça crée une relation. Nous sommes des êtres de relation. Et c'est important. On a l'habitude d'avoir des relations entre nous, êtres humains, plus ou moins faciles d'ailleurs, mais en même temps, ce qui est important, c'est d'aller au-delà de notre condition d'être humain et de créer des relations avec tous les êtres qui peuplent la nature. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est très bien.
On a évoqué une toute petite partie de vos activités.
C'est vaste, hein.
C'est vaste. On va dire le nom de votre site pour se quitter. Site.
Alors c'est www.couplan.com. Couplan, c'est écrit simplement C-O-U-P-L-A-N. Et puis, je serai très heureux de communiquer justement avec les personnes qui en ont envie parce que j'adore ça, quoi.
Merci François Couplan. On l'a compris ce matin que vous adorez communiquer et transmettre.